Dirt FM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Je suis votre animateur Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 12 du bulletin F1.
Pourquoi numéro 12, Abdou?
Ouais, ben en fait, l'épisode numéro 12, c'est le même numéro que portait Felipe Nasr, qui a été en Formule 1 en 2015 et en 2016. Et à son tout premier Grand Prix avec Sauber, il a réalisé... En fait, il a terminé cinquième. Cinquième à son premier Grand Prix. Bon, il y a eu plein
d'abandons. Un bon résultat.
Oh oui, un très bon résultat. Sa première saison avec Sauber, commandité par la Banco do Brasil, s'est très bien disputé. 27 points au total pour finir 13e. Sa deuxième saison a été un peu plus difficile. Il a marqué 2 points devant ses partisans au Brésil lors de ce... fameux Grand Prix où il y a eu du déluge, où Max Verstappen a brillé, mais lui aussi a brillé. Malheureusement, l'année suivante, il a perdu son volant chez Sauber et il s'est retrouvé une année sans conduire avant de se transporter en Amérique du Nord où il, jusqu'à présent, participe au championnat nord-américain d'endurance et il a même remporté le championnat avec Whelan Energy Engineering Racing avec une Cadillac. Alors, au menu cette semaine, on revient sur ce fou Grand Prix de Grande-Bretagne qui a vu Lewis Hamilton passer à l'histoire. On va aussi, bon, on va faire la revue actuelle des 10 écuries. On va aussi parler des évaluations individuelles et aussi des internautes. Et dans le segment en route vers la Formule 1, ben on va revenir sur les courses de Formule 2 et de Formule 3 qui ont eu lieu aussi à Silverstone. Alors, pour débuter, je vais présenter tout d'abord notre nouvelle recrue, en fait. Il s'agit de Marc-André Fortin qui est avec nous. Bonjour Marc-André.
Salut Abdou.
Ça va bien?
Ça va bien. Très bien.
Excellent. Marc-André, comme tu es la nouvelle acquisition du bulletin F1, est-ce que tu peux te présenter?
Ben, j'ai 17 ans. Je vais étudier l'an prochain en ATM, donc en art technologie des médias, et puis à Jonquière. Donc, c'est pour justement devenir prochainement animateur de radio. Sinon, je suis à peu près à la Formule 1 depuis peut-être 5-6 ans. Et puis tout ça a commencé quand j'étais tout petit, quand je voulais écouter Sport 30 le matin, le dimanche, puis finalement c'était une course de F1, puis ça me faisait un peu chier parce que j'aimais pas ça. Puis finalement, à un moment donné, j'ai écouté une course, puis j'ai aimé ça, puis j'ai embarqué dans le bateau depuis ce temps-là. Ouais.
Ça commence toujours avec RDS, hein? Toujours.
Exactement.
Oh, oui.
Toujours. Puis là, après ça, il y a Verstappen qui est arrivé, puis ça m'a donné encore plus le goût de suivre les activités. Donc voilà, ça fait un petit topo de qui je suis.
Excellent. Puis Marc-André d'ailleurs avait rédigé l'avant-course du Grand Prix d'Autriche que vous pouvez visiter sur bulletinf1.com pour voir son œuvre. Puis elle est pour un premier article, moi j'ai vraiment adoré. Et évidemment, je ne suis pas seul. Celui qui accompagne Marc-André, c'est Brian, qui revient.
Enfin, salut Abdou.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Super bien, merci. Brian qui était, oui, effectivement très occupé. Maintenant, c'est terminé. Enfin, je le souhaite.
Oui, ça va être terminé, Abdou.
Ah, je t'inquiète pas. Je cogne. Évidemment, chacun a ses occupations. Même moi, j'en aurai au cours des prochaines semaines, tout dépendamment, mais je serai là. Alors, trêve de plaisanterie, on va revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, Brian, si tu veux bien, nous donner le résultat complet du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Ben oui, avec plaisir. Donc, on commence avec un duo Mercedes-Hamilton-Bottas. Hamilton qui a réussi à dépasser de justesse son coéquipier Valtteri Bottas. Il a fait un temps total de 1h21 minutes et 8 secondes et 452 millièmes de seconde. Et il totalise un total de points de 26, puisqu'il a réussi à avoir le meilleur tour aussi.
Dans le dernier tour, oui. Faut-il le préciser, ce qui nous a tous jetés en bas de notre chaise.
Surpris, exactement.
Surtout, il y avait des pilotes qui avaient des pneus plus frais, plus récents aussi, puis on voit que c'est pas... la voiture, c'est pas juste la voiture, c'est le pilote aussi qui fait la différence.
Exactement.
Ensuite, en troisième position, il va avec la Ferrari de Charles Leclerc, qui amasse un total de 15 points durant cette course. Et on va ensuite, pour la quatrième et la cinquième place, un duo, en fait, de Red Bull. Gasly à la quatrième place et Verstappen à la cinquième place. Qui a quand même terminé un positionnement, malgré le petit accrochage qu'on reparlera un petit peu plus tard.
Que oui.
Ensuite, on y va avec, à la sixième place, avec la McLaren de Carlos Sainz. À la 7e position, Daniel Ricciardo dans sa Renault. 8e position, Kimi Raikkonen avec sa Alfa Romeo Sauber. 9e position, Daniel Kvyat avec sa Toro Rosso. 10e position, Nico Hülkenberg avec sa Renault. 11e position, Lando Norris avec sa McLaren. Albon à la 12e position avec sa Toro Rosso. Stroll, le Canadien, à la 13e position avec sa Racing Point. 14e et 15e place, respectivement, Russell et Kubica chez Williams. À la 16e place, on retrouve Vettel avec sa Ferrari. Et on termine à la dernière position du peloton, à la 17e place avec Perez dans sa Racing Point. Nous avons trois pilotes qui n'ont pas terminé la course. Si on y va avec le premier, on y va avec Antonio Giovinazzi. Et ensuite, on retrouve à la fin de la grille avec les deux Haas de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen.
Merci beaucoup, Brian. Et qui a été élu pilote du jour?
Pilote du jour, ça a été Monsieur Charles Leclerc. Effectivement, il y a eu une des très, très, très belles batailles durant sa course. Très, très, très agressif aujourd'hui, j'ai trouvé, durant tout le long de la fin de semaine. Puis je pense qu'effectivement, il mérite son pilote du jour. Ouais.
Ouais, et on avait dit qu'il allait.
Il ne l'a pas volé.
Oh oui, exactement, effectivement. Il ne l'a pas volé, effectivement.
Il l'a mérité.
Ok.
Ouais, il est.
Oh oui.
Il est juste fort contre Verstappen, puis ça a mérité, donc en rendu là. Moi, c'est ça, ben, tu sais, Verstappen a été très agressif à un moment. Ferrari, lui, l'ont pas aidé quand ils l'ont pas fait rentrer après l'incident, donc.
On se souvient, il y avait au début de la course, au début du 13e, autour de 13e, 14e, 15e tour, il y avait vraiment une bonne bataille entre Verstappen et Leclerc, puis on se rappelle que au premier arrêt au puits, au 14e tour avec Leclerc et Verstappen, c'était très, 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 très serré au niveau au niveau de l'arrêt au puits. Puis on voit que Verstappen est sorti en avant. Il y a encore eu une bataille durant les tours qui ont suivi. Puis pour de vrai, ce qui a gâché la course en Verstappen, je pense que c'est vraiment l'accrochage avec Sébastien Vettel.
Ok, oui. Maintenant, il est temps de. Effectivement, et même Marc-André est d'accord. si vous le voulez bien, messieurs, on va commencer avec les évaluations personnelles du Grand Prix. Alors, Marc-André, à tout seigneur, tout honneur. Tu vas commencer avec tes évaluations, donc hashtag perfo du jour, hashtag contre perfo du jour et le hashtag moment cocasse.
Ben, je commencerai par la bonne performance, justement. J'irai la bataille Charles Leclerc et Verstappen durant toute la course, avant que Vettel rentre dans le derrière de Verstappen. Il y avait une très belle bataille, puis ça permettait aux amateurs d'être sur le bout de leur chaise. Donc déjà pour ça, ça mérite une bonne performance, vu que à part le Grand Prix en Autriche qui a été très bon, le reste ça a été quand même assez, ben pas plate là, parce que c'est toujours un petit peu fun une course de F1, mais ouais. Il manquait un peu de traction, fait que là on a vraiment de quoi de bon avec cette bataille là. Ça passait un peu sous le silence, mais les mécanos Red Bull qui ont réussi un temps de 1,91 secondes.
Oui, ah oui, oui. C'est vrai, le
au petit puits, le plus donc, rapide. 1,90 exactement, donc ouais. qui ont réussi à battre l'ancien record de Williams qui était établi à 1,92, wow. Donc ça mériterait une bonne clap pour les mécanos, donc ça fait le tour un peu.
Tu sais l'accident de Verstappen puis de Vettel, ça me fait penser à quoi, Marc-André?
Ouais, l'accident de sûrement que tu vas ramener à Bakou en 2017.
À Bakou exact. En 2017, puis l'accident d'Espagne de... Ça semble pas trop, mais on voit que, tu sais, c'est un peu l'accident...
C'est semblable.
Semblable à l'accident de Bakou. Sinon, il y aurait aussi peut-être en Espagne en 2016 avec Rosberg et Hamilton. Ça se fait que ça semble pas trop, mais c'est semblable quand même.
Wow. Ouais, exactement. Une bataille qui se finit mal, puis c'est d'un côté comme de l'autre, il n'y avait pas vraiment. Ben, tu sais, Vettel a eu une pénalité de seconde, mais ouais. Ça méritait-il vraiment une pénalité? Je suis pas trop sûr, vu que les deux ont pas eu de grands dommages, à part Vettel qui est descendu en 17e position. Donc, on va voir si ça va se transporter à la prochaine course, cette petite rivalité-là. Mmh.
Là, on voit qu'il y a déjà Verstappen, il commence à. Là, je vois que Leclerc, il commence à prendre ça personnel aussi.
Oui.
Avec Verstappen, en effet. Ça fait deux courses déjà là qu'on voit que Verstappen prend les devants sur Charles Leclerc. Puis, tu sais, on sait que Leclerc, il a un orgueil immense, il se met énormément de pression. Puis, je sais que. On peut le sentir dans sa voix, des fois, dans les qualifications, que ça vient le chercher, là. Ça vient chercher ce genre de situation-là.
Oh oui. Je pense que ça peut être bon pour sa carrière aussi de tout de suite se frotter à quelqu'un de puissant comme Verstappen. Donc,
mais tu sais, les deux ont déjà piloté ensemble. Hein. C'est des deux jeunes qui se connaissent et qui savent. Tu sais, ils ont déjà des championnats de karting ensemble. Ils ont fait leur début ensemble. Oui, ils n'ont pas eu le même parcours, le même cheminement. Mais tu sais, on voit que de deux côtés, les deux ont fait leur devoir. Puis que c'est une très bonne rivalité qui est en train de se monter. Là.
Oui. En effet, puis c'est que du bon pour la F1 là, avec Honda qui performe très bien puis dans les dernières courses, donc on va s'attendre à beaucoup de changements dans les prochaines années en plus, donc il y a que du bon qui arrive.
On va t'écouter pour ta contre-performance.
Ma contre-performance, je la donnerai à Vettel qui malgré c'est pas tout à fait de sa faute l'accident qui a encore péri sous la pression que Charles Leclerc lui donnait, ou bien on a vu souvent par les dernières années que à partir du moment où ça devenait sérieux, Vettel n'était pas capable de prendre les devants sur Hamilton. Donc aujourd'hui il est un peu cassé sous la pression encore une fois là, quand Verstappen l'a dépassé, puis il a finalement il a fini sa course dans le derrière de Verstappen.
Ah oui. Et le moment cocasse?
La conférence de presse avec Hamilton, Norris et Ricciardo qui a été m'a fait sourire vendredi dernier. Ouais. Quand j'ai vu ça, c'était très bon là, comme fait cocasse là, j'ai adoré.
Oh oui, mais je sais pas si c'était concernant quelque chose de, je sais pas si c'était à propos de trucs. Du corps humain, là, qui a fait...
Ouais, exactement. Ricardo qui a utilisé une petite blague par rapport au corps humain pour faire débarquer Norris de la conférence de presse. C'est à voir là, sur Twitter. Là, vous allez pouvoir avoir la chance de le regarder. Là, c'est assez cocasse, effectivement.
Merci beaucoup, Marc-André.
Donc, ça fait plaisir.
C'était la première évaluation de Marc-André dans le podcast du Bulletin F1. Et maintenant, on va passer à Brian.
Bon, en fait, moi, ma performance du jour, ça serait pas vraiment pour un pilote en tant que tel, mais plus pour une écurie. Ouais. J'irais avec l'écurie de McLaren. En fait, je trouve que McLaren a très bien performé aujourd'hui. On voit que Sainz a été très, 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 très performant. On voyait qu'il était dans le momentum de la course. Je voyais à un moment donné, autour du 16e, 17e tour, on voyait que c'était vraiment une file indienne au niveau de voiture. Puis tu vois, la voiture qui ressortait le plus, c'était la McLaren de Carlos Sainz. Puis on avait aussi Norris. Oui, Norris était un petit peu plus en retrait, mais on voit que lui aussi était dans le pace, comme on dit, de la course. Puis il était toujours prêt à. Puis il a bien défendu, tu sais. Il y avait Albon en arrière de lui, à quasiment une seconde près, une seconde et demie près. Il y avait Stroll aussi qui mettait de la pression un petit peu plus loin. Fait que, tu sais, il a su garder sa tête froide durant une bonne partie de la course. Sinon, on voit Carlos Sainz aussi, ça a été brillant, a su gérer le stress de Ricardo, qui est un pilote qui est très, très, très expérimenté, qui est très, très, très bon aussi. Mm-hmm. Les deux motoristes Renault, oui. Tu sais, on voit que ces courses-là, c'est... Mm-hmm. Ben, avoir le même moteur, presque le même châssis, mais des fois, comme on voit, c'est un jeu de pilote. Le pilote fait la différence.
Là. Ah oui, donc je suis...
Effectivement.
Je suis vraiment d'accord avec toi, Carlos Sainz. Pour moi, comme j'ai dit, je pense, dans le dernier podcast, c'est probablement un de mes coups de cœur cette saison. Je le répète à plusieurs reprises, il a été malchanceux lors des trois premiers Grands Prix.
Ouais. Il a eu bad luck, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, c'est une nouvelle saison, on commence de nouveaux pieds, c'est une nouvelle adaptation. Surtout que lui, tu sais, il s'est promené d'écurie en écurie dans les trois dernières années. Fait que tu sais, c'est trois adaptations, trois saisons d'adaptation différentes sur trois écuries différentes. Fait que tu sais, c'est sûr que tu sais, ça arrive à tout pilote. Tu sais, il y a des changements, puis il faut que ça s'adapte à ces changements-là, comme l'écurie faut que ça s'adapte à son nouveau pilote. Ça c'est
Il a l'air d'avoir trouvé sa niche aussi, donc on est content de le voir bien établi. Puis,
Le fait qu'il soit dans la famille McLaren, ça le motive un petit peu, là, je pense.
Ouais, exactement.
Exactement.
Maintenant qu'il a quitté le cocon de Red Bull, c'est maintenant devenu un pilote où il se sent... Il a moins de pression parce qu'on va se dire, Red Bull, ben, ils ne sont pas là pour développer, ils sont là pour gagner.
Effectivement.
Ta contre-performance, Mr. B?
J'irai avec les Haas.
Oh!
Ouais.
On a beaucoup de choses à dire sur Haas.
Mais, et pour commencer, Adou, commence par m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Écoute, je les vois en dernier sur la grille, ils sont en DNF, mais j'ai pas vu ce qui s'est produit. J'aimerais ça que tu m'expliques, puis tu expliques aussi aux auditeurs qui n'ont pas regardé la course, qu'est-ce qui s'est produit en fait.
Oui, alors au départ, on a Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui s'accrochent en arrivant à la droite du Wellington, donc entre les virages 5 et 6. Et là, moi, quand j'ai vu les deux Haas, bon dernier, derrière les Williams, je me suis dit, bon, il y a eu quelque chose, ils se sont arrêtés. Ben, en fait, Grosjean et Magnussen se sont touchés, ont eu des crevaisons. Et je pense que ça a été plus qu'une crevaison. On voulait aussi économiser probablement la boîte de vitesse, la voiture pour le programme double en Allemagne et en Hongrie. Mais c'était une catastrophe totale. Ajoutons à ça le tête-à-queue de Romain Grosjean lors de sa sortie.
En essai, donc ça, déjà là, ça commençait mal la fin de semaine.
Oh oui.
Puis tu sais, je vois que Haas ont été performants en début de saison. Ils ont été très, très, très bons avec le nouveau moteur Ferrari. La conception de la voiture, le nouveau logo, le nouveau sponsor. Oh. Ça a été un gros plus pour tout le monde.
Ne me parle pas du nouveau sponsor parce que sinon, je vais partir encore une fois en une tirade. Puis... ça s'en vient là, je vais faire une autre crise de neige.
Ouais, mais je vais pas en parler longtemps. Tu sais, Haas, on partit du bon pied la saison 2019, puis là on voit juste que c'est en décrescendo total.
Ouais.
À l'interne, ça va pas bien, les pilotes, ça va pas bien. On voit au niveau administratif aussi, ça va pas bien. Mm-hmm. Nouveau sponsor, nouveau argent aussi. Tu sais, on voit que sont en retard sur les autres voitures, sont en retard, on voit même sont en retard sur les Alfa Romeo, quasiment voir dire Williams. Oui, c'est dur à dire, mais comme on voit aucune amélioration en ce moment chez Haas, puis c'est ça qui est très, très, très décevant.
Même on voit du recul parce que, si je me trompe pas, il y avait une nouvelle, il y avait la voiture d'Australie de cette année, si je me trompe pas, la spécification d'Australie, donc
oui, pour l'avoir
ils ont même reculé donc dans leur développement. Ça, on...
Ouais, pour Romain Grosjean, parce que je pense que le Français, je pense, avait des petits problèmes avec sa voiture, donc ils sont revenus à la conception originale
de
la voiture. Donc ça n'a vraiment.
Et moi, j'ai très hâte de voir les images de la nouvelle série qui va sortir en mars prochain. Là.
Oui, oui, ça va être quelque chose à surveiller.
Ça va être du bonbon là.
Ça va être quelque chose à surveiller, surtout avec on connaît que Gunther Schaller, il est très 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 émotif comme directeur sportif. Puis
il est très honnête.
Il est très 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 honnête, très direct. On a hâte de suivre ça avec on suit ça avec impatience.
Okay, exactement.
Ah oui. Puis ton moment cocasse, mon cher B.
Mon moment cocasse, écoute, c'est pas vraiment un moment cocasse, c'est juste un moment fort, en fait. Un moment fort, vraiment. La sortie de puits, la première sortie de puits entre Verstappen et Leclerc, puis la bataille qui s'en est suivie. Je trouve que ça a été un moment qui m'a. Je pense qu'Abdou, tu l'as su un matin. Je veux dire, je te criais dans les oreilles quand j'ai regardé ça.
Merci, Brian. Maintenant, j'ai encore mal aux oreilles.
c'est Ça m'a mis sur les nerfs, ça m'a mis genre au bout de mes orteils. Tu sais, Verstappen, c'est mon pilote favori, puis le voir se battre comme ça pour une position, tu sais, avant, pendant, puis après l'arrêt aux pluies, j'ai trouvé ça exceptionnel, puis je suis très content qu'il s'en sorte devant Leclerc. Oui, la fin de course ne s'est pas avérée comme on désirait, mais on voit que, encore là, c'est pas seulement la voiture, c'est le pilote, hein.
Oh, oui. Effectivement, encore une fois, donc c'est ça. Ben, même s'ils n'ont pas amassé de points, la bonne nouvelle, c'est que Verstappen aurait peut-être terminé deuxième. Donc, on voit qu'encore une fois, la voiture semble en pleine forme dernièrement. Ouais. En plus, Gasly a super bien fait. Donc, on voit que ce n'est pas seulement le pilote, mais la voiture puis le moteur présentement qui marche à plein régime.
Puis, on voit encore là les
pour Verstappen, il n'y a que du bon.
Puis là, on voit qu'on a eu la dernière évolution moteur il y a à peu près 2 semaines. Il reste encore 3-4 semaines avant la nouvelle évolution moteur, avant le gros changement de moteur aussi. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir deuxième partie de la saison. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Puis on voit qu'en ce moment, tu sais, c'est la deuxième évolution moteur de la saison. Red Bull tient déjà tête à Ferrari. Qu'est-ce qui nous attend là? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est encore pas de Ferrari ou là on vise le Mercedes? Ouais. Ça, c'est encore à voir là.
Oh oui. Ben merci Brian pour tes évaluations.
Ça fait plaisir, ça.
Est-ce que j'y vais avec la mienne ou je vais sur les internauteurs?
Vas-y avec la tienne, on va aller vite, puis après ça on va faire les internauteurs. Okay.
Parfait. Donc, perfo du jour, à tout seigneur, tout honneur, Monsieur England, Lewis Hamilton, yes. Impérial. Contre-perfo du jour, je pense que c'est très facile.
Très
Sébastien.
Clair comme de l'eau de
roche. Ouais, clair comme de l'eau de roche, Brian. Sébastien Vettel.
Ouais.
Puis mon moment cocasse, je vais garder mon calme. C'est la saga Rich Energy.
Yep. Ok, ouais. C'est correct. On en parle plus.
On va en parler parce que ça a été un des sujets chauds.
Ouais.
Des sujets importants.
Donc, juste pour mettre en contexte pour tout le monde, en fait, ce qui s'est produit,
c'est
au début de la fin de semaine, avant la fin de semaine du Grand Prix de Grande-Bretagne, Haas a annoncé la séparation de sponsors entre Haas et Rich Energy. Rich Energy, comme on savait, ont eu quelques poursuites au niveau légal pour leur logo. On commence à avoir des difficultés financières de ce côté-ci. Puis au niveau de Haas aussi, ils n'étaient pas très très contents du résultat, puis très très contents de ce qui se produisait c'est pas cette polémique encore, mais avec ce petit problème administratif à l'interne de Rich Energy, ce qui est carrément hors du contrôle de Haas Racing. Puis c'est normal, c'est des choses qui arrivent, mais là l'affaire c'est que il y a des spéculations comme quoi Haas n'aurait pas aidé à la situation de Rich Energy, que là Puis Haas a tenté de se retirer de ce problème-là juste en mettant un terme à ce contrat-là de sponsor chez Haas. On voyait encore sur la le logo était enlevé sur la voiture, mais on voit encore le Rich Energy sur sur la voiture au complet, mais ça devrait être retiré d'ici 2 semaines pour le Grand Prix de Hongrie. De ce qu'on pense. Haas en ce moment sont toujours à la recherche d'un sponsor. C'est certain que l'argent pour des écuries comme Haas ou comme des écuries de deuxième ou de troisième rang, c'est normal parce que les fonds viennent de ce genre de compagnie-là, de ces sponsors-là. Fait que pour eux, c'est important d'avoir cette somme d'argent-là parce que ça aide à la performance de la voiture, ça aide à payer les pilotes, ça aide à payer les modifications, ça aide à attirer du monde parce que vous ne voulez pas, oui, avec une, tu sais, du monde qui aime les boissons énergétiques puis qui voit qu'il y a une voiture qui roule avec le logo de Rich Energy, ça tape à l'œil, tu sais, c'est comme le même principe que Red Bull, tu sais, Red Bull, le monde qui aime la Red Bull veut pas qu'il y ait une voiture. Ils ont une voiture qui tape à l'œil, tu sais, ils ont une histoire. Puis encore, je pense que c'est le même principe pour Haas. Puis c'est juste une. Je pense personnellement que c'est juste une roche sur le chemin. Puis Haas va s'en sortir sans problème.
Ben merci Brian. Là, on a malheureusement perdu. Est-ce que Marc-André est encore là? Oui, Marc-André.
Oui.
Oui. On a eu peur qu'on a enregistré.
Bon, ça marche.
Bon, c'est on va bon. Espérer que ça va...
Ça ne nous lâche pas.
Ça ne nous lâche pas, là, parce que sinon, je vais probablement faire comme Gunther Steiner, là, péter une crise.
Oh, chaud, on va se fâcher contre la connexion.
Ouais. Alors, on va continuer avec les évaluations des internautes, en fait. On va commencer sur Twitter. En fait, on en a un aujourd'hui. Ben, c'est le classique. C'est notre ami Francis Paquette. Qui nous dit performance du jour, Lewis Hamilton qui a été incroyable et Carlos Sainz aussi.
Ah, tu vois?
Ben, tu vois, ben, il continue d'accumuler les.
Il continue d'impressionner.
Exactement. Puis je pense qu'on est d'accord pour dire que la contre-performance du jour, ben, ça va à Vettel, mais aussi à Haas. Le moment cocasse, le fou rire de Lando Norris en conférence de presse. Ouais. Donc, je pense qu'il y a lui dans tes pensées, Marc-André.
Je pense que Lando Norris...
Il est sûrement lui, effectivement.
Ça, c'était quand le journaliste a dit à Lando Norris que lui et Russell ensemble égalaient quasiment l'âge de Lewis Hamilton, de ce que j'avais compris.
Non, c'est plus par rapport à...
Un commentaire de Ricardo durant... Mais c'est à peu près dans ce temps-là de la conférence de presse.
Ouais, je pense qu'il parlait à propos de l'anatomie en bas de la ceinture.
Ah, okay.
Ouais, je vais pas le dire parce que on est quand même PG là.
Ouais, c'est correct.
Puis aussi les contre-performances, les Haas qui doivent abandonner car ils se sont rentrés dedans.
Ça serait drôle à entendre post post-race conference là.
Ouh.
Ça, admettons que tu invites les deux pilotes de Haas. Oh boy.
Boy, j'aimerais surtout pas être dans la peau du journaliste qui va parler à Gunther Steiner parce que
ça va brasser
ou encore moins être le caméraman de Netflix que comme il y aura une saison 2 à Drive to Survive.
Yep.
Ouf que
Il va avoir beaucoup de censure, il va avoir beaucoup de censure, ça c'est sûr.
Ils ont peut-être perdu des caméras aussi durant les tournages.
Ouais,
effectivement. Oh oui. On va aller sur Facebook, on en a deux, yeah! Nick Provost qui nous dit contre-performance du jour, Lewis Hamilton. Contre-perfo, Sébastien Vettel. Moment cocasse, Verstappen qui redépasse Leclerc hors-piste. Parce que peut-être... toi, Ben, je sais pas si tu l'as vu. Marc-André, toi, tu l'as probablement vu comme moi. Ben, quand Leclerc a dépassé Vettel dans Verstappen dans l'avant-dernier virage, ouais. Ben, Leclerc l'a genre est rentré de force sur le virage Verstappen, qui, ce dernier, est sorti par l'extérieur pour reprendre sa place. Puis, il se demande même comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'enquête sur le fait que Verstappen revienne en piste par l'extérieur de la piste, hors des limites même.
Ben moi, je trouve ça correct. À un moment donné, faut que tu laisses les pilotes se battre un peu. Puis, sûrement que les commissaires ont entendu le message de Verstappen lors du dernier Grand Prix, de laisser un petit peu les pilotes se battre entre eux. T'sais, à un moment donné, c'est quand même du sport automobile. Là. C'est faut qu'ils se battent un peu pour gagner, justement, parce que sinon, ils vont rester l'un derrière l'autre comme un train, puis ce sera pas plaisant, donc... Faut les laisser un peu se battre.
Ouais, c'est ça. Puis c'est ce qu'on a eu pour la majorité de quelques courses cette année.
Effectivement.
Non, il faut quand même les laisser. Sinon, on a Alain Léon qui, lui, est allé vraiment dans l'originalité. Perfo du jour dans l'ombre, Carlos Sainz et Daniel Kvyat.
C'est vrai, on avait parlé de Kvyat aussi. Ben, tu sais, Sainz et Kvyat, ce sont, tu sais, en milieu de peloton, ça a été quand même une bonne course. Tu sais, je disais, c'est des voitures qui se sont toutes suivies une à l'autre. Ça a été quand même des bonnes batailles qui se sont livrées aussi en milieu de course. Puis, c'est très, très, très impressionnant à voir. Kvyat, ça fait trois balles de diffusion que je le dis. Kvyat, il m'impressionne à tous les fois. C'est plus Torpedo Kvyat qu'on connaît là. C'est vraiment il a mûri. C'est ça qui est beau à voir chez ce pilote-là.
Exactement. Et sa contre-performance, ben c'est Sébastien Vettel évidemment et Antonio Giovinazzi qui, ironiquement, ben il s'est retrouvé dans le sable de Silverstone. Et au moment où on se parle, nous on est dans la plage à l'intérieur du circuit Gilles Villeneuve, donc ça nous fait penser à ça. Donc je pense que lui il est un peu hâte aussi aux vacances.
Ouais. Celle-ci qui s'en vient dans 3 semaines environ.
Ouais. Après exactement. Le Grand Prix d'Hongrie.
Exact.
Puis, son moment cocasse, ben, je te remercie, Brian, de m'avoir épargné ça, mais son moment cocasse, c'est la saga As et Rich in
It. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite de la saga As, pour être honnête. Là, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler et comment ça va être... Parce que tout va pour le mal chez As en ce moment.
Ouais.
Puis, tu sais, j'ai pitié parce que c'est une bonne écurie. C'est une des seules écuries américaines. En fait, c'est la seule écurie américaine. Puis on voit que c'est une écurie qui performait bien. Parce que oui, il y a eu des écuries américaines avant qui ne performaient pas.
Parce que...
Ouais, exactement.
Ils ont trouvé une solution gagnante. Là,
exactement. Avec... Ils ont cherché quand même un bon moteur. T'sais, ils sont pas allés chercher ça n'importe qui. Ils se sont pas dit, oh, on va aller chercher un moteur Ford, on va chercher un moteur GM. Non. Ils sont allés vraiment pour un moteur italien. Ils savent
rien de moins.
Rien de moins, exactement. Moteur Ferrari, très, très, très performant. Oui, c'est les évolutions de moteur de l'année passée. Mais
de cette année même.
Ah, de cette année même. Tu vois, c'est encore mieux. Puis on voit que... le moteur, ça coupe énormément, ça coûte très bien avec le châssis de la VF17, puis c'est ce qu'on veut voir. C'est juste que là, c'est une série de mésaventures chez Haas en ce moment.
Exactement. Donc là, on a fini avec les évaluations. Maintenant, on peut refaire le tour des écuries.
Oui.
Et comme ça a été le cas depuis la création du bulletin F1, le podcast. On va commencer avec Mercedes.
Ouais. En fait, bon, Mercedes, pour moi, je trouve que ça a été franc comme course. La bataille entre Hamilton et Bottas, ça a été épique. En qualification aussi, on voyait que Bottas était en pleine forme. Hamilton aussi, quelques petits dérapages en pratique libre. Même chose pour quelques petites erreurs en Q1, Q2. En Q3, a été parfait. Même chose pour Bottas. L'écurie, le moteur, la voiture est en pleine forme. Les pilotes en pleine forme. J'ai rien à dire du tout.
Ouais. Et toi, Marc-André, comment peux-tu qualifier la fin de semaine des flèches d'argent?
Ils ont été pas mal parfaits toute la fin de semaine. Nous avons vu très solide en qualification avec Bottas qui a terminé quand même avec la pole, qui a raté un peu son départ, mais a quand même réussi à reprendre l'avantage sur Hamilton au début de la course. Et ensuite, ce qui est plaisant, c'est que Mercedes a laissé leurs deux pilotes se battre entre eux en début de course. On n'a pas donné l'avantage à Hamilton. Et il y a peut-être lorsqu'il y a eu le drapeau jaune, que ça a été un petit peu bizarre de pas faire rentrer Bottas, mais encore là, c'est une stratégie comme les autres. Donc on peut se demander pourquoi, mais c'est on va leur laisser le doute d'avoir pris la décision de ne pas faire rentrer Bottas.
Oui, et puis en plus, ça a fait du bien de voir, surtout Bottas, résister à Hamilton. Parce que je pense que dans le quatrième tour, là, ça, quand Hamilton est allé vraiment prendre les devants, on a entendu la foule, mais Bottas qui arrive et qui...
De nulle part, puis qui revient prendre l'avantage. Donc,
oui, exactement.
Puis on l'a souvent vu... freiné quand Hamilton arrivait dans d'autres courses. Et là, il a vraiment pas lâché. Il a continué à batailler. Donc, c'est plaisant de le voir comme ça, là, de pas se faire marcher sur les pieds par le grand Hamilton, même chez lui.
Oui, exactement. Et c'est juste dommage que il ait eu une petite léthargie au cours de la saison, parce que pour moi, ça aurait été le vrai candidat au titre avec Hamilton, parce que là on s'entend que, à moins qu'il arrive quelques malchances, Hamilton va s'en va vers le titre numéro 6.
Oui, effectivement, ça prendrait un énorme changement pour qu'Hamilton réussisse pas à gagner ce titre-là. Il y a déjà une grande avance là.
Ça s'approche du 7 titre de Schumacher, hein, ça. Il faut faire attention pour surveiller ça de près les prochaines années, parce que. Ça sent le 7e, voire le 8e titre, là.
Oui. Puis là, il n'y aura aucun doute, on va dire, que Hamilton risque d'être le meilleur de tous les temps. Désolé de le dire à ceux qui sont des fans de Schumacher, mais je pense qu'on va bientôt dire qu'Hamilton risque d'être le meilleur de tous les temps.
Je suis très d'accord avec ça. Puis en plus de tout ça, on voit souvent des gens dire qu'Hamilton, c'est pas l'un des meilleurs, mais pourtant on voit que année après année, il est là. Même s'il est dans une très bonne voiture, le pilote fait une grande différence en F1, donc on ne peut pas lui enlever son mérite d'être champion du monde. Donc
tu as tout dit, Marc-André, tu as tout dit. Le pilote fait la différence, parce que c'est bien beau d'avoir la meilleure voiture, mais il faut le prouver que c'est la meilleure. Il faut que le pilote fasse la différence aussi. Puis Hamilton l'a prouvé depuis 2014, donc qu'on le veuille ou non, que peu importe nos allégeances, il faut le reconnaître que Mercedes domine, risque de continuer à dominer. C'est juste aux autres écuries à...
Exactement. Ce n'est pas seulement une question d'argent non plus, parce que lorsque tu regardes avec Ferrari, lorsque tu compares avec Ferrari, ils ont pas mal le même nombre de millions dans leur voiture. Et puis, c'est aussi une question de stratégie, de décision sur la piste. Et Mercedes, à ce point-là, sont impeccables, prennent toujours les bonnes décisions rapidement. Ça aide leurs pilotes à bien paraître, donc puisque Ferrari ne fait pas toujours avec Vettel dernièrement non plus, donc.
Ok, oui, exactement, tu as bien raison. Puis justement, on va parler de Ferrari, Leclerc troisième, notre podium pour le pilote monégasque. Je pense que c'est
quatrième,
parce que la séquence a commencé à Montréal,
oui,
avec une troisième place. Une autre troisième place en France, la deuxième qui aurait pu être même une victoire en Autriche, puis là, une troisième sortie un peu de nulle part ici à Silverstone.
En fait, toi Ferrari, c'est vraiment les deux extrêmes en ce moment là. On voit qu'il y a un pilote qui performe très très bien ces temps-ci, Leclerc performe très 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 cadencé, très drillé comme pilote. C'est ça qu'on aime voir chez un pilote qui est jeune. On voit qu'il n'est pas trop téméraire. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui jugeaient qu'il était trop jeune pour entrer chez Ferrari, mais on voit qu'il nous prouve carrément le contraire. Ouais. Sinon, de l'autre côté, on voit Vettel, lui aussi, ça va de mal en pire. De son côté, une cinquième place aux qualifications, un peu décevant, not surprise comme on dit. Puis on voit avec l'accident avec Verstappen qui s'est ramassé 16e.
Oui.
Avant dernier en fait.
Oui.
Pauvre lui, honnêtement.
Ah ben justement, maintenant que tu en parles, j'aimerais avoir votre avis sur cet accrochage entre Vettel et Verstappen qui a été un des, sinon le moment marquant de ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
Décisif, je dirais même.
Oui,
décisif. Parce que à ce moment-là, Verstappen se battait pour, en fait, il était troisième, si je me trompe. Ouais, c'est ça, il était troisième. Oui. Donc Vettel était troisième. Et...
Oui, exactement. Exactement, il était troisième.
Et puis il était obligé de rentrer, donc il aurait été deuxième, donc ça a été décisif pour Verstappen et pour Vettel aussi vu qu'il s'est retrouvé en fin de grille. Donc mais j'ai trouvé ça correct. Moi j'aurais peut-être pas pénalisé Vettel nécessairement de 10 secondes vu qu'il était en fin de grille et tout ça, mais c'était pour plus pour la symbolique du geste.
Pour les règles.
Exactement.
Oui, et je suis d'accord avec toi. Plus ou moins, parce que je pense que vous en parliez en début d'épisode, que c'était un accident similaire à celui de Bakou en 2018 entre justement Ricardo et Verstappen. C'est la même move que Verstappen a fait, un freinage en changeant de ligne. Donc, là encore, Vettel a été surpris, mais là-dessus, contrairement à Ricardo, Vettel était un peu plus loin. Donc, je pense que c'est ce qui a pesé la balance contre l'Allemand. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus.
Ouais, quand même, c'est vrai.
Vu de
même. Il y a aussi le fait qu'au moins Verstappen a pu ramener sa voiture sur la piste et a pu terminer. Déjà là, c'était quand même une chance, là, parce qu'il était quand même dans le gravier, avait pas de vitesse, donc, puis il a justement mentionné Verstappen que, pour lui, il avait aucune idée comment il avait fait pour ramener la voiture à l'arrivée, donc, c'est pour ça qu'il avait pas l'air, il était pas trop fâché de la situation, là, en fin de course, comme on l'a déjà vu par le passé.
Ah oui, donc, ça prouve que la Red Bull, elle est faite solide.
Oui. Effectivement.
Et justement, on va parler de Red Bull. J'ai deux fans de Red Bull avec moi, donc j'aurais bien aimé vous faire un rush papier ciseaux pour savoir qui va commencer. Donc, je suis désolé, Brian.
C'est correct.
Comme Marc-André, c'est sa première fois, je vais lui laisser parler de Red Bull en premier.
Ah, je vais laisser Brian commencer. Brian, tu peux aller.
Ah, ben Brian, c'est ton genre de chance. Oh.
Ben oui. En fait, probablement que Marc-André va être un peu d'accord avec moi. Je trouve que Red Bull, là, ils ont très bien performé ça en fin de semaine. Ils ont présenté un nouveau livery, vraiment. Il y a quelques petites modifications en l'honneur de James Bond.
Exactement.
Des chances avec le numéro 7, mais on sait jamais, tu sais.
Ça aurait pu,
mais on a vu que...
Ça aurait pu marcher, effectivement.
Ouais, on a vu que Verstappen, très belle performance en qualification aussi. Une belle quatrième position pour Verstappen en début de course. Même chose pour Gasly qui a épaté tout le monde en fin de semaine en FP1, on s'entendait tout à ce que ce soit Hamilton ou Bottas, mais non! Qui a fait le meilleur temps?
Pierre Gasly,
effectivement.
Par combien, messieurs?
De
plus mois? De une seconde sur Verstappen. Et donc ça, c'est à mentionner aussi.
C'est un circuit qu'il connaît aussi. Hein? Lui, il a roulé en Europe avant de s'en aller en Super Formula. Fait que, c'est quelque chose qu'il connaît, qui est habitué, puis qui connaît ce circuit-là. Fait que, c'est, pour lui, c'était gaga-gaga. Comme lui, quand il y a le Grand Prix du Japon, même affaire, lui, il sort chez lui. Là.
C'est ça, c'est comme un peu sa deuxième maison après la France.
C'est exact.
Donc, oui, puis justement, Marc-André, toi qui, dans nos conversations sur Messenger, tu apprécies beaucoup le français. Peux-tu me parler un peu de sa performance et surtout de ce qui nous a surpris, son dépassement sur Sébastien Vettel? Ah, on a encore perdu Marc-André.
Oh.
Oui. Ah bon,
Je pense à
ça a
Sarfi.
repris. Bon, on a fait une pause parce que
Bon.
Brian va aller porter ses affaires là. Il vient, il s'est pas encore déshabillé. Bon, Dieu merci, la connexion est revenue, mais non, c'est ça. C'est là, t'étais en train, on était en train de parler de Pierre Gasly. Alors, oui, donc Pierre Gasly, quatrième, et son dépassement sur Sébastien Vettel, qui nous a pas mal surpris, nous, dans l'équipe, n'est-ce pas, Marc?
Oui. Ben, toujours, et peut-être que Gasly, j'avais toujours confiance en lui, avait de mauvais résultats en début de saison, mais était un petit peu malchanceux. Non, mais c'est sûr qu'il nous a complètement surpris avec l'agressivité dont il a fait preuve avec son dépassement sur Vettel en début de course, là. Donc, il y a eu du cran d'aller dépasser Vettel et une Ferrari. On voit que le moteur Honda lui a donné un bon coup de main aussi. Mais encore une fois, on l'a dit depuis le début du podcast, mais lorsqu'un pilote prend les devants, ça peut faire une différence. Donc, Gasly a fait la différence sur ce dépassement. Puis, il a été bon tout le reste de la course en gardant son calme, en étant constant et a eu une petite bataille avec Charles Leclerc à la fin. A malheureusement perdu le combat, mais ça va être à lui de le reprendre lors d'une prochaine course.
Exactement. Puis en plus, je ne sais pas si c'est le fait qu'il ait maintenant les réglages de Verstappen qui l'ont aidé en fait.
Qui l'aide un peu, ouais, peut-être aussi, mais en même temps, je pense qu'il a compris le message. Aujourd'hui, ça n'a pas été clair cette semaine. On entendait quelque chose d'un bord, on entendait quelque chose d'autre de l'autre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Helmut Marko aurait dit à Gasly que il était sur une pente descendante et qu'il était, comment qu'on dit ça, il était en danger pour son poste était en danger, tout ça, et finalement a réfuté. Gasly a mentionné que c'était pas vrai et tout, mais donc ça n'avait pas été clair cette situation-là cette semaine, mais tout de même il a réussi à revenir en force, et c'est ça l'important pour lui cette
Oh
année-là.
oui, puis j'espère que ça va continuer comme ça cette année, espérons-le.
Oui, heureusement. Et Honda qui est tout simplement incroyable, là. Moi, c'est le jour et la nuit sur la situation de McLaren l'an dernier. Donc,
Oh oui.
on voit qu'une bonne entente peut tout faire la différence aussi.
Eh oui, il a une très bonne entente entre autres avec Max Verstappen, n'est-ce pas, Brian?
Ouais,
Oui.
et c'est deux jeunes, fait que tu sais, c'est deux jeunes qui se complètent, un apprend sur l'autre, puis tu sais, les deux ont eu quasiment le même parcours. Gasly est un petit peu plus long pour se rendre en Formule 1, mais on voit qu'ils ont sensiblement les mêmes expériences de vie, de course et de passion aussi, on peut dire ça
Ouais.
comme ça. C'est comme une fraternité, un peu brotherhood comme on dit.
Oh oui.
Red Bull utilise un peu moins leur complicité qu'il le faisait par le passé entre Ricciardo et Verstappen. On savait que les deux aussi, malgré leur combat, avaient une très bonne.
Très mauvaise.
Donc, on le voit peut-être moins avec les vidéos et tout, là. On sait que Red Bull était très actif avec ça, avec les deux pilotes, mais ça va sûrement s'en venir tranquillement pas vite
Alors,
là,
même si les deux sont
sur
sur
les
des
réseaux
écuries
sociaux.
différentes, on voit toujours qu'il y a une bonne complicité entre Verstappen et Ricciardo.
Exactement.
Ouais. Donc, oui, exactement. C'est peut-être la complicité qui va grandir entre Gasly et Verstappen, même si les deux se connaissent bien. On va passer tout de suite à McLaren, qui a connu, on va dire, une bonne course à domicile, surtout avec la nouvelle comme quoi leurs deux pilotes ont été renouvelés pour la saison 2020, même si en vérité Sainz avait déjà un contrat de plusieurs saisons en poche et que Norris, disons, la promotion était terminée, donc il a officiellement le poste pour l'année prochaine. Mais on va dire Sainz le meilleur des autres. Norris, c'est juste dommage qu'il ait fini à l'extérieur des points, mais mon Dieu, les deux ont été...
Quelle course quand même.
Course pour les deux McLaren.
Ouais, quelle fin de semaine aussi, Norris qui a été constante pas mal toute la fin de semaine. Il a connu peut-être un petit peu une fin de semaine plus difficile qu'il a connu en Autriche, mais tout de même, j'ai aimé comment il s'est battu en début de course avec Ricardo. Il voulait avoir l'avantage sur Ricardo, mais malheureusement, il l'a pas eu. Mais quand même, ça a été... lui aussi, de son côté, il s'est pas fait appeler. Donc, au puits, puis ça le nuit un peu. Mais à part ça, il a eu une très bonne performance, là, en général.
Oui, exactement. Et en plus de ça, je dois dire quand même que... Surtout Carlos Sainz, qui a fait du très bon travail. Il s'est qualifié 13e, on sait pas... comment ça s'est produit alors qu'on savait qu'il allait être facilement dans le top 10 en Q3, mais quand même, c'est un beau retour pour l'Espagnol.
Il s'est très...
Oui, exactement, il s'est très bien fait. C'est très bien déroulé, en fait, Carlos Sainz.
Oui.
Donc, c'est ça. On s'excuse des petits problèmes de connexion. C'est notre première fois, en fait. Bon, on utilise Skype déjà en partant. Donc, dans un endroit où la connexion peut aussi bien faire qu'une Williams. Marc-André?
Okay. Ouais, ça a repris.
Okay, donc, non, c'est...
on est encore chanceux.
Ah, boy. Bon, Brian nous a quittés parce qu'il avait eu un appel de dernière minute, donc on va compléter l'épisode à deux.
Fait. Donc, nous étions rendus, on avait pas mal fini McLaren, ouais, je pense.
Donc là, on va passer à Renault.
Parfait, Renault. Donc,
excellent. Donc, on va passer maintenant à Renault. Quand même... Ricardo Hülkenberg qui se retrouve dans les points, surtout après un Grand Prix d'Autriche difficile, on va dire. Moi, je dois dire, je suis très content de voir Renault reprendre un peu du poil de la bête, surtout après leur... c'est un début de saison très difficile. En fait, c'est une saison très difficile.
Très difficile, ouais. Ouais. Surtout lorsqu'on voit un peu aussi McLaren qui... à bord d'un moteur Renault et qui termine souvent devant. Donc déjà là, pour un constructeur de moteur, c'est pas agréable de voir son adversaire, en fait,
son client même.
Son acheteur là devant. Donc pour eux, c'est très difficile de ce côté-là. Et puis je peux te laisser aller un petit peu. Oui. Je t'ai coupé peu.
Il n'y a pas de problème. non, c'est ça. Ricardo vraiment impliqué dans des bagarres un peu partout, à gauche et à droite, avec Norris, aussi je pense avec une Toro Rosso, si je me trompe pas, avec Alex Albon. Tandis qu'il y a eu Nico Hülkenberg qui s'est quand même s'en est quand même bien tiré avec cet accrochage avec Sergio Perez. Je dois dire.
Ouais, aussi.
Parce que sinon, on a cru qu'il avait quelques dommages. Peut-être qu'il en a eu, puis ça s'est rétabli par la suite. Donc, je dois dire au moins, il est allé même chercher Alex Albon, qui était en difficulté aussi. Donc, je dois dire, Renault, 7 points au final, mais ce sont 7 points qui changent la donne après un Grand Prix d'Autriche relativement compliqué pour eux, n'est-ce pas? On va maintenant passer à Alfa Romeo. Alfa Romeo, moi, je dois dire, j'ai pas bien vu au complet, mais Kimi Raikkonen, 8e, 4 points. Antonio Giovinazzi,
qui est allé dans le bac à sable.
Oui.
Mais ils ont été subtils aujourd'hui, les Alfa Romeo. Là.
Ouais.
Raikkonen, qui est 8e, mais on ne l'a pas vu énormément dans les batailles. En tout cas, où la caméra était le plus souvent, c'était braqué sur le Verstappen, Leclerc, sinon c'était Norris, Ricardo, mais on l'a pas vu, mais il a quand même terminé 8e. Là.
Oui, exactement. Moi, je dois dire, Raikkonen, depuis cette année... depuis qu'il est revenu chez Alfa Romeo / anciennement Sauber, moi je trouve que le travail de développement qu'il fait est absolument extraordinaire.
Oui.
Puis,
effectivement,
disons, Ça profite un peu à Antonio Giovinazzi, mais encore là, il faut qu'il complète la course parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un problème avec les freins ou c'est quoi que ce soit? Parce que c'est dommage, il pouvait lui aussi se retrouver dans cette belle bataille.
Dans les points.
Dans les points. Et surtout, continuer sur la belle lancée qu'il avait faite en Autriche, où il marque enfin son premier point. C'était pas une fin de semaine grandiose pour l'Italien, même s'il a perdu un peu de cheveux avec le.
Ouais, c'est ça, c'est peut-être sa nouvelle coupe de cheveux qui a fait en sorte que sa performance ne soit pas pareille.
Oui, exactement, parce qu'il faut l'expliquer. Lors du Grand Prix d'Autriche, Giovinazzi et Frédéric Vasseur, le directeur d'Alfa Romeo, ont fait un petit pari. Si Giovinazzi marquait des points, ben, il se
terminait dans les points.
Exactement.
Donc, il avait le droit de couper la chevelure qui est assez longue de Giovinazzi. Donc, c'était un autre moment cocasse de la fin de semaine dernière.
Oui.
Donc,
pour égaliser, il a coupé les cheveux ou les fonds, une partie des fonds est revenue au Movember, mais là, malheureusement, il n'a pas de points, donc au moins il peut garder ses cheveux. Donc,
c'est notre raison pourquoi j'aime la nouvelle F1 avec sous l'ère de Liberty Media qui on voit beaucoup plus les pilotes d'un autre angle, donc c'est plaisant de les voir de cet angle, justement.
Exactement. On va maintenant passer à Toro Rosso. Daniel Kvyat, ça a été, comme on disait, une performance dans l'ombre. Daniel Kvyat, 9e, et j'ai encore du mal à comprendre comment il s'est rendu 9e, parce qu'à un moment donné, il était, je pense, 16 ou 17e.
Ouais, 16 ou 17e, ouais, t'as raison. C'est dur à dire aussi. Puis Albon, Albon a terminé combien?
12e.
10e. Donc, Kvyat qui a terminé 12e.
Ouais, parce que donc, Albon était dans les points à un certain moment. Il se battait justement.
Exactement, il se battait pour une place et. C'est étonnant de voir son coéquipier prendre sa place dans les points. Là.
Oh oui, c'est vraiment dommage parce que je dois dire, les Toro Rosso cette année, ça va bien. C'est meilleur que l'année passée. Ben, c'est meilleur qu'en 2017 avec évidemment ouais. Kvyat et tout ça. Mais je dois dire, les Toro Rosso ont été dans le coup solide. Oui, avec Albon à un certain moment, mais Kvyat qui vient sauver un peu les meubles pour l'écurie italienne.
Avec deux points très importants. Là.
Oh oui, deux gros points, je dois dire. Brian, tout à l'heure, le mentionnait, c'est un autre pilote, quelqu'un qui fait très peu d'erreurs. Peut-être parce qu'il il a beaucoup moins de pression. Il revient en Formule 1, la tête mieux reposée que quand il était avec... Red Bull, dans l'optique où s'il voulait garder son volant avec la grosse équipe, surtout avec un Max Verstappen qui arrivait, qui était...
Qui le poussait derrière. Donc, effectivement, je pense que aussi sa saison, peut-être chez Ferrari, en simulation, l'a peut-être aidé aussi à, justement, ne pas trop penser à la compétition, mais beaucoup plus à sa conduite. Donc, ça va vraiment lui avoir été profitable cette saison là-bas.
Et ça se voit, puis c'est, comme je disais, c'est vraiment dommage par contre pour Albon, qui a été d'ailleurs même plus rapide que son coéquipier expérimenté,
oui.
Mais malheureusement, je pense que la stratégie n'a pas fonctionné, et pilote comme Nico Hülkenberg et même Lando Norris en difficulté avec une stratégie ratée avec la voiture de sécurité ont terminé devant le pilote britannique qui, l'année dernière, avait remporté sa course à domicile. Disons, lui qui est natif de Londres, son père, justement, était un ancien pilote de course en voiture de tourisme, mais conduit sous la nationalité thaïlandaise.
Donc, exactement.
C'était dommage, mais je pense que au final, quand on y pense... c'est une fin de semaine relativement réussie pour Toro Rosso, Mais à l'inverse, c'était pas une fin de semaine à domicile plaisante pour Racing Point. Lance Stroll qui finit devant Sergio Perez, ouais. Mais dans des circonstances un peu différentes. Parce que Stroll, oui, 13e, mais c'est parce que Sergio Perez a eu un contact avec Nico Hülkenberg à la relance de l'épreuve, ce qui a endommagé son aileron avant. Donc, Checo.
Donc, perte de puissance, perte de d'habilité, ouais, d'aileron et tout. Donc, et je trouve qu'il a encore bien fait, en fait, au départ, qui a gagné plusieurs places au départ, ensuite, a profité justement des accrochages pour terminer quand même 13e devant Perez, Vettel qui ont eu des problèmes. Donc,
ouais.
Mais c'est encore difficile. Disons que l'adaptation est peut-être pas tout à fait là encore. Il y a de la pression, ce jeune Canadien, ouais. Malheureusement, dans le monde de la F1, qui, avec son père qui a beaucoup d'argent et tout, les gens pensent qu'il a acheté son volant. Donc, ouais. C'est peut-être ça un peu qui le tracasse présentement, là, de devoir à tout prix performer de manière constante et tout.
Oui, exactement. Puis je pense que, mais son gros problème, évidemment, on ne le répétera jamais assez, ce sont ses performances en qualification.
Ouais.
14e fois éliminé en Q1. 10e fois consécutive battu par Sergio Perez. Imagine, si c'était une série de la Coupe Stanley, ça ferait balayer deux fois consécutive.
ça fait mal. Là.
Ça Et fait puis, mal.
Aussi, ce qui est triste aussi, c'est que si il passe en Q2, par exemple, puis qu'il termine 11e, mais avec ses bons départs, il pourrait terminer facilement dans les points, sûrement. Donc, il faut qu'il travaille ça. En même temps, la Racing Point est peut-être pas tout à fait à point aussi. Donc, avec Perez qui a aussi de la difficulté à passer en Q2. Donc, faut garder quand même, faut regarder cette situation-là de loin, un petit peu de plus loin pour bien apprécier le travail de Stroll qui est, même s'il y a de la difficulté, qui performe bien en course, donc.
Exactement. Puis je dois dire aussi, prochain Grand Prix, on annonce une nouvelle voiture, donc probablement avec des pièces différentes, un châssis 2.0, donc surtout sur un circuit où ils ont été relativement bons au cours des dernières années, sous l'ancien nom de Force India. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec l'écurie établie à Silverstone, mais qui apparemment est canadienne selon plusieurs.
Oui, c'est ça. Donc, ça on aimerait le ressentir un peu plus ici.
la nationalité canadienne, mais ils sont établis à Silverstone. Et Williams, George Russell et Robert Kubica, 14e et 15e quand même. Ils ne finissent pas dernier, c'est bon.
c'est bon.
Et surtout parce que c'était les 50 ans de travail de Frank Williams en Formule 1. Donc, c'est dans les circonstances un bon boom, en fait, parce que oui, ils n'ont pas été dans le coup dans la course, mais avec toutes les circonstances.
Vraiment pas. Encore une fois,
mais je dois dire quand même que Russell continue à m'impressionner. Kubica, ça va légèrement mieux. Et bon, il m'arrache encore avec sa voiture, mais je dois dire que. Il y a un léger progrès chez cette écurie. Ça a mal commencé. Russell a très bien fait, entre autres, en Autriche. Je lui ai donné un 8.5 parce qu'il a été dans toutes les bagarres. Il a tenu tête à une Haas. Mais...
C'est vrai, tu as raison. Puis Kubica qui, justement, termine le pilote du jour, même si c'était la FIA qui a sanctionné, qui a dit que c'était du piratage et tout, là, mais on peut le mentionner. Il y a eu un petit peu de l'amélioration pour ça, donc c'est certain que c'est catastrophique comme situation chez Williams, surtout avec la belle histoire qu'ils ont eue à travers les années. Donc, on peine à trouver des solutions, on peine à trouver les problèmes. Donc, c'est triste pour le bon Frank Williams qui voit son écurie descendre très bas, disons. Là.
Oh oui, et on souhaite évidemment une progression. Peut-être, je ne pense pas que Williams, à moins d'une circonstance vraiment exceptionnelle, ça peut arriver, mais je ne pense pas que Williams marquera 2 points.
Non, je ne crois pas, malheureusement aussi. Mais penses-tu que Mercedes va sortir Russell de là rapidement, donc dès l'an prochain?
Moi, je l'espère, mais je ne pense pas, parce que c'est sûr qu'il y a Bottas qui fait mieux que 2018, il y a Ocon, même s'il est un pilote Mercedes, pour aller chercher du travail ailleurs.
Exact. Donc, il y a comme un... c'est drôle à dire, mais il y a un bouchon chez Mercedes présentement,
ouais.
Et Bottas qui est en bonne position présentement. Là. Donc, mais moi, j'aimerais ça voir Russell peut-être sortir de cet environnement-là un peu difficile. Mais en même temps, il n'y a pas de place, justement. Donc, c'est un petit peu triste pour lui. Et puis, on connaît les Mercedes qui n'aiment pas donner leur pilote ou bien échanger leur pilote pour d'autres écuries. Donc... je pense qu'il va devoir rester là, malheureusement, pour la saison prochaine.
Oh oui, puis au moins il va pouvoir apprendre.
Ah oui.
Williams, disons, à développer la voiture pour probablement revenir dans la course au milieu du peloton.
Il faut apprendre à perdre aussi, donc ça peut être bon pour lui, pour son développement, comme tu disais plus tôt.
Exactement. Et pour terminer avec... Les évaluations, le review des équipes, As qui a connu toute une fin de semaine difficile. On en parlait avec la saga Rich Energy et je remercie encore Brian d'en avoir parlé parce que sinon je me serais emporté pendant une quinzaine de minutes juste pour Rich Energy qui est probablement le pire sponsor
de l'histoire de la Formule 1.
Exactement. Je sais pas quoi dire. Et t'as Romain Grosjean qui sort de piste après son premier tour en fait à la ligne des
prix. Ouais. Ça m'a rappelé son erreur à Bakou il y a quelques années pendant la safety car. Ouais. Donc
Et ça, on peut dire officiellement le meme « I think Ericsson est officiellement mort ». Donc, on ne peut plus faire de blagues sur le fait que Ericsson a probablement été coupable des actions de Grosjean. Et d'ailleurs, on peut pas blâmer Ericsson d'avoir été responsable de l'accrochage en tête de Haas. Parce que je dois dire, ça fait un peu dur. Surtout que l'année dernière, c'était leur meilleur résultat. Ils avaient fini 5e, c'était leur meilleur résultat en Formule 1. Mais là...
Ça s'annonçait bien. Malgré quelques erreurs, on se souviendra de leur mécano. C'est la première course en Australie. Là.
Oui.
Donc, ils avaient mal fixé les deux roues. En fait, une roue sur les deux voitures de leur pilote. Donc, il aurait pu terminer avec encore plus de points l'an dernier. Et cette année, c'est à la dérive complètement. Là. On peine à croire qu'ils vont bien terminer la saison cette année.
Et au moins, si ça peut les aider, ils peuvent toujours se battre pour la 6e ou 7e place. Parce
ouais.
que là, ils se retrouvent avant-dernier. Ils ont 16 points. Ils ont 3 points de retard sur Toro Rosso et Racing Point qui sont égalités avec 19 points. Puis ils en ont 10 de moins qu'Alfa Romeo qui, selon les Grands Prix, peuvent avoir des performances inconstantes tout dépendamment de la.
Coussi-coussi, soyons. Exactement.
Puis il reste encore une dizaine de courses pour se rattraper, surtout en Allemagne, donc déjà en partant. Donc là, ils peuvent. C'est pas encore perdu pour Haas, mais ils ont besoin
non.
d'un coup de pied au derrière de la part.
Puis...
Oui, vas-y.
Non, vas-y, complète en fait. Je voulais pas te. En fait, ce que j'allais dire, c'est que aussi les pilotes vont peut-être sentir la chope chaude là, en fait. Donc leur poste est peut-être en danger pour l'an prochain aussi. Donc Grosjean qui connaît des difficultés, Magnussen aussi, donc peut-être que leur situation va s'améliorer en vertu de leur position l'an prochain.
Mais c'est surtout pour Grosjean que je m'inquiète, parce que
oui.
Bon, l'année dernière, il a fait quelques bourdes, mais cette année, il a juste été malchanceux. D'abord, en Australie, c'était la même chose que l'année dernière. Il a été victime de quelques accrochages dont il n'était pas responsable. Et là, la voiture ne se comporte pas très bien. Et là, arrive à Silverstone, accrochage avec son propre
coéquipier. Avec son propre coéquipier, donc j'ai hâte de voir comment Haas va faire leur devoir pendant leur pendant la pause là. Ils vont sûrement se rencontrer, même si en théorie ils n'ont pas le droit, pour faire état de la situation là, de leurs deux pilotes.
Exactement. Et voilà, c'est ce qui conclut finalement. Finalement, on doit dire, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques. Donc, c'est ce qui conclut, en fait.
La technologie qui n'a pas coopéré.
Aujourd'hui, voilà, c'est ce qui complète le retour, en fait, des écuries du Grand Prix de Grande-Bretagne 2019. Alors, au classement des pilotes, Lewis Hamilton compte maintenant 223 points avec sa sixième victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui
très impressionnant.
Exactement, ce qui est maintenant un record sur ce Grand Prix légendaire. Valtteri Bottas maintenant compte 184 points. Max Verstappen maintenant garde sa troisième place au classement des pilotes avec 136. Et Charles Leclerc se rapproche.
Et qui aurait pu avoir beaucoup plus de points aussi durant la course, mais.
C'est ça qui est ça, malheureusement, pour Verstappen.
Ouais, malheureusement pour lui, il va devoir se reprendre.
Et on a Sébastien Vettel avec 123 points et qui a 3 points de moins que Charles Leclerc.
Oui, donc peut-être que leur position que Vettel aura peut-être pas toujours l'avantage. J'ai hâte de voir comment ils vont prendre ça lors de la prochaine course.
Et qui est à la maison pour Vettel.
Oui, en plus, ça serait quand même drôle de voir que finalement Ferrari décide de ne pas donner avantage à Vettel. En fait, dans cette situation-là, moi, je leur dirais de faire 50-50. Je pense qu'il n'y a pas un pilote qui mérite plus l'avantage que l'autre, même si Vettel a plus d'expérience. On voit que Charles Leclerc est très solide là, cette année.
Oh oui, il a prouvé à plusieurs reprises aussi,
oui.
Surtout aujourd'hui où il a, disons, sorti les coudes, il s'est montré plus agressif, et il l'a dit lui-même qu'il allait se montrer plus agressif après avoir perdu le Grand Prix au départ de Max Verstappen.
Effectivement.
Et au classement des constructeurs, Mercedes continue d'avancer. 407 points pour les flèches d'argent, 243 points pour Ferrari, Red Bull en a 191 et McLaren continue de s'éloigner de Renault. 60 pour McLaren, 39 pour Renault. On en parlait, Alfa Romeo a 26 points en 6e rang. Égalité avec entre Racing Point et Toro Rosso à la 7e place avec 19 points. Haas qui se retrouve avant-dernier au 9e rang avec 16 points, mais 16 points de plus que Williams.
Que Williams, exactement. Et comme je te mentionnais hier lors de notre test, c'est le fun de voir que Red Bull et McLaren aient redessiné l'expression que comme tu sais, l'herbe est toujours plus vert chez
le voisin,
donc c'est le fun de voir ça, que McLaren continue à bien performer avec un nouveau moteur et une relation qui a l'air de très bien tenir avec Renault présentement, avec Abbott Booth, qui est pas toujours facile.
Et aussi avec leur pilote, sans lancer de flèche à un champion du monde.
Exactement.
Alors, le prochain Grand Prix, ce sera dans 2 semaines. Ce sera le premier d'un programme double, puisque ce sera le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, probablement pour la dernière fois, puisqu'il y a des fortes chances que le Grand Prix ne revienne pas au calendrier de 2020. Et il faut en parler aussi, parlant de renouvellement. Le Grand Prix de Grande-Bretagne va revenir.
Jusqu'en 2024, c'est une très bonne nouvelle, ça. Donc,
Oui, vas-y.
Non, vas-y, pardon.
Il n'y a pas de problème. Je dois dire, en plus, il y avait 350 000 personnes durant le Grand Prix de Grande-Bretagne, je pense, pour les 3 jours. Puis, on l'a entendu aussi pendant la diffusion, la foule qui criait,
oui. qui était avec Hamilton aussi. C'était quand même 141 000 personnes, donc pour un dimanche, pour ce dimanche-ci. Donc on voit que les Anglais sont toujours aussi passionnés par la course automobile et qui méritent de garder leur Grand Prix là.
Oui, puis en plus avec le dimanche sportif qu'on a eu.
Eh oui.
Avec Wimbledon, la finale mémorable entre Federer et Djokovic, l'Angleterre qui gagne la Coupe du monde de cricket, puis les 2 courses renversantes en Formule E. Le Grand Prix de Grande-Bretagne nous a offert un autre spectacle.
Un grand spectacle, oui. Je pense qu'Hamilton va avoir été content de sa popularité en Grande-Bretagne, là, qui mentionnait au début de la fin de semaine qu'il n'était pas satisfait que le Grand Prix soit présenté en même temps que la finale de Wimbledon et compagnie. Donc, malgré tout, il va avoir été supporté de très grande façon en fin de semaine.
Exactement. Puis je suis d'accord avec lui personnellement parce que je trouve le Grand Prix de Grande-Bretagne et Wimbledon sont pour moi 2 institutions dans le monde sportif en Angleterre.
Mm-hmm.
Tu peux pas avoir les deux en même temps. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Mais j'espère que avec le calendrier l'année prochaine, là, qu'on va faire en sorte que au moins le Grand Prix de Grande-Bretagne soit pendant la première semaine de Wimbledon ou une semaine après, parce que c'est très difficile, surtout si tu es un fan de tennis et de Formule 1. Tu décides de...
Tu dois faire un choix, exactement.
Exactement.
Puis, ce sont deux événements, ben, moins la Formule 1, mais le tennis, tu peux arrêter puis recommencer de regarder. Mais la Formule 1, tu dois regarder la course au complet. Sinon, tu manques des bouts, puis tu dois... tu sais pas pourquoi le pilote, par exemple, est rendu premier, donc c'est moins plaisant à regarder avec des coupures, justement. Là.
C'est ça. Donc, moi, j'espère que l'année prochaine, minimum, voire même 2021, s'il y a un gros changement dans la structure du calendrier, que le Grand Prix de Grande-Bretagne ne clash pas avec la finale masculine de Wimbledon. C'est ce que
je pense aussi. Ouais, moi aussi. Puis je pense que c'est aussi un travail du promoteur là-bas de mettre son pied à terre puis de demander un changement comme ça. Donc, pour lui, ce n'est pas avantageux, même si on voit que les guichets sont pratiquement plein, donc pour lui, ce n'est pas avantageux d'avoir cette situation-là. Son événement manque un peu de lustre, donc vu que Wimbledon, c'est un grand événement mondial aussi, donc...
C'est quelque chose à méditer pour l'année prochaine.
Oui, exactement.
Alors, on va maintenant passer en route vers la Formule 1, notre segment qui... fait le tour des séries de soutien de la Formule 1 qui permet de découvrir un peu les futurs pilotes. Puis, comme d'habitude, il y avait les courses de Formule 2 et de Formule 3, donc 2 courses par Grand Prix. On va commencer tout seigneur, tout honneur avec la Formule 2. Course numéro 1, la course principale, c'est l'Italien Luca Giotto qui a gagné la course sur la Uni Virtuosi Racing devant le Canadien Nicolas Latifi. Donc finalement, après quelques courses difficiles, entre autres à Monaco, Latifi retrouve le podium. Et Guanyu Zhou, qui était parti en pole position, complète le podium. Nick De Vries, le meneur au championnat, termine
Termine sixième, donc effectivement.
son avance, en fait, qui a été réduite au classement des pilotes. Mais il y a une deuxième course aussi le lendemain. C'est Callum Ilott qui est parti en pole, en fait, puisqu'il faut le rappeler, les huit premiers voient leur position être renversée, en fait, sur la grille de départ. Donc, celui qui termine huitième par premier et celui qui gagne la course par huitième. Or, Ilott est parti en pole, mais c'est Jack Aitken, l'autre Britannique, qui a remporté la course numéro 2 devant Louis Delétraz et Nick De Vries. Latifi termine cinquième. Et Mick Schumacher, le fils de Michael, termine sixième. Donc, il marque des points dans la deuxième course.
C'est plaisant à voir. C'est très plaisant à voir. Autant pour Latifi qui ramasse encore des points, qui se donne encore une bonne vue par le sport mondial, justement, pour peut-être avoir un poste l'an prochain chez Williams.
Oh.
Donc, j'ai hâte de voir aussi s'il va être capable de prendre l'avantage peut-être sur Quicker l'an prochain.
Oh oui, puis en plus, il menait à un moment donné le championnat, mais malheureusement, il a été frappé par la malchance, surtout à Monaco, et De Vries en a profité pour s'éloigner
Prendre la...
prendre la tête du championnat, effectivement. Mais cette course, disons, s'est faite sans Sean Gallal, le pilote, le coéquipier de Mick Schumacher chez Prema, puisqu'il il n'a pas participé à la fin de semaine pour des raisons personnelles. Mais le problème, la raison personnelle, c'est parce que il a apparemment boycotté la course puisqu'il avait été pénalisé d'abord de 3 places sur la grille pour un accrochage avec Louis Delétrange pendant la qualification ou les essais. Pas content, il a fait une tirade sur Instagram qu'il a ensuite enlevée, supprimée, et il a décidé tout simplement de boycotter l'épreuve. Donc, il va revenir probablement pour l'épreuve de Formule 2 en Allemagne, mais je ne sais pas si ça va. Ça fait mal à Prema, en fait, d'apprendre qu'il décide de ne pas participer à une course de manière volontaire.
Volontaire, exactement, là, une grève en pleine saison. On n'a pas vu ça souvent, disons. Mais c'est plate à voir aussi une situation comme ça, d'un pilote qui décide de volontairement ne pas jouer, de ne pas participer à la course, là. Donc,
C'est ça, c'est quand même triste parce que je trouve que, oui, pour ceux qui ont vu l'accrochage, peut-être vont dire que Gallal n'était pas responsable, c'était juste un incident comme
de
ça.
cours.
Oui, exactement, mais de là, fais ta course.
Ouais.
Même si tu as une pénalité, accepte-la. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord, mais il ne faut pas mettre ton équipe en péril parce que tu n'es pas
Pour
d'accord
des
avec une décision. Oui, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions concernant les commissaires de piste,
Oui,
surtout
dernièrement, justement, comme tu allais dire, là, qui connaissent un peu de difficultés avec leurs décisions, puis les gens les reprennent souvent, donc présentement sont en situation un petit peu en dépourvu, donc c'est un autre coup que ce pilote leur a fait, mais maintenant, justement, je pense pas que c'était la bonne décision à faire pour l'équipe, justement, pour des raisons bien évidentes, là. Donc,
Non, c'est ça. Puis je trouve que, bah, au moins Mick Schumacher s'est bien débrouillé dans les circonstances. Mais je trouve que Gallal, c'est pas un mauvais pilote. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, il est en Formule 2 à cause de son contrat avec PFK Indonésie. Mais Je crois que il aurait dû. Mais je trouve que c'est pas un mauvais pilote. Il a gagné quelques courses en Formule 2. Donc, il faut leur donner une chance.
Ouais.
Exactement. Puis, maintenant qu'on a parlé de Formule 2, ben, on va tout de suite donner le classement des pilotes, puisque Nyck de Vries continue de mener le championnat avec 170 points. Et Latifi en compte 139, Giotto en a 122, Sergio Sete Câmara en a 121 et Jack Aitken, pardon, en a 113. Donc la prochaine épreuve aura lieu en Allemagne sur le circuit de Hockenheim. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que Devus va pouvoir capituler sur son avance au classement des pilotes? Oui.
Effectivement, c'est toujours intéressant la Formule 2 à regarder, justement, la Codemaster qui a décidé d'instaurer la Formule 2 dans son jeu. Et puis, ça va peut-être donner le goût aux gens de regarder davantage une compétition qui est peu suivie, mais qui est d'autant plus intéressante, là, vu que les pilotes ont tous le même moteur, la même force de voiture. Donc, c'est intéressant à voir.
Exactement. Puis si vous voulez lire la critique de F1 2019, c'est sur notre site web bulletinf1.com. J'y ai joué, j'ai adoré. Toi, est-ce que tu as aimé ça?
J'ai pas eu la chance d'y jouer encore. Je vais l'emprunter à mon ami très bientôt. En fait, j'attends le 2021 pour en acheter un. Donc, avec tous les changements et tout, mais je profite un peu de mon ami qui l'achète à chaque année pour jouer à chaque année.
Excellent. Et si la F2 est présente, j'espère que peut-être pour la F1 2020, la Formule 3 sera présente. Et
Peut-être.
ouais, je l'espère. Et justement, il y a eu de la F3 à Silverstone aussi. Et c'est l'Estonien Juri Virts qui a remporté la course numéro 1, la course principale sur la high-tech, devant l'Indien Johan Daruvala et Marcus Armstrong sur l'Aprema. Ensuite, on a eu, lors de la course numéro 2, l'Italien Leonardo Puccini sur l'autre high-tech qui a remporté la course. Robert Schwarzman, le meneur au championnat, termine deuxième. Et Lawson sur MP Motorsport complète le podium. Au classement des pilotes, alors au classement des pilotes, Schwartzman garde son avance avec 114 points. Daruvala est deuxième avec 102. Et Vips, qui est un pilote de l'Académie Red Bull, est troisième avec 92 points. Donc, la prochaine épreuve, en fait, je dois me corriger, il n'y a pas de course de F2 et de F3 à Hockenheim. Ce sera à
En
Budapest.
Hongrie, oui, effectivement.
Exactement.
C'est ce que j'ai vu aussi en même temps que toi.
Donc, mes excuses si je vous ai induit en erreur avec Hockenheim. Ce sera à Budapest avant les grandes vacances de la Formule 1. Alors, c'est ce qui complète cet épisode un peu mouvementé du bulletin F1.
Effectivement, avec un petit peu de problème technique, mais finalement, on va être arrivé à bon port là.
Finalement, puis en plus là j'ai l'alarme qui vient de sonner dans notre salle, donc quoi de mieux que de compléter cet épisode?
Oui.
Incroyable. J'espère que tout sera mieux pour la semaine prochaine, parce que oui, on sera de retour la semaine prochaine pour un épisode entre deux Grands Prix, et Marc-André sera là justement pour parler un peu plus de Renault. On va parler aussi
Oui,
de
un petit peu plus de
l'actualité.
Renault, de Red Bull peut-être, et
Oui.
puis on va avoir de bonnes discussions.
Oh oui, j'ai hâte. Et on va aussi parler un peu d'actualité de la Formule 1, parce qu'il y en a toujours, elles peuvent nous surprendre. Autant comme ça peut être après la diffusion de cet épisode, comme ça peut être le lendemain. Donc, si jamais il y a une actualité importante de la Formule 1, on va en parler dans le podcast la semaine prochaine.
Exactement.
Donc, vous pouvez nous écouter sur vos plateformes de balado diffusion préférées, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Stitcher ou bien même Google Play Music. Ça va être évidemment disponible sur Balado Québec et sur, évidemment, bulletinf1.com, notre site web officiel. Et évidemment, et aussi le bulletin de notes du Grand Prix de Grande-Bretagne sera en ligne cette semaine. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 13 et espérons qu'il va nous porter chance parce que je trouve que le 12 nous a porté malchance aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé ça que ce soit les plus... Ironiquement, s'il n'y avait pas eu cette pause, en fait, ça aurait été l'épisode numéro 13.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été chanceux ce soir-là. C'est ce numéro de malchance.
Exactement. Puis en plus, c'est l'épisode de numéro Pastor Maldonado. Donc, comme quoi, tout se recoupe avec les formules.
Oui, effectivement.
Alors, Marc-André, ben, pour une première fois, j'ai été vraiment impressionné. Donc, merci infiniment. Puis encore une fois,
merci à toi de l'invitation. C'est très toujours plaisant de parler de F1 avec des passionnés. Donc,
Exactement. Puis, évidemment, tu es un membre officiel de l'équipe maintenant. Avec Brian, que je remercie encore, qui est malheureusement dû nous quitter pour des raisons personnelles pour cet épisode, mais il sera de retour pour le Grand Prix d'Allemagne dans 2 semaines. Et moi, je vais vous retrouver avec Marc-André la semaine prochaine pour l'épisode numéro 13, l'épisode de Pastor Maldonado. Alors, Marc-André, encore une fois, un gros merci.
Merci à toi et on se dit à la prochaine.
À la prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Bonne semaine à tous.
Salut à tous.
Salut.
Salut.